Son nom est associé à la gestion durable des ressources halieutiques par les pêcheurs. Il l'est aussi, bien sûr, à la Calypso, au commandant Cousteau. François Sarano a été le chef d'expédition et le conseiller scientifique du commandant Cousteau. Au VVF France, il a été le responsable du département ressources halieutiques. Il y a créé, avec Laurent Debat, les unités d'exploitation et de gestion concertées à l'occasion de la projection du film Albert Falco, l'Océanaute, réalisé par Sylvain Braun et produit par Lato Sensu Productions à l'UNESCO lors de la Journée mondiale des océans. François Sarano rappelait qu'il faut protéger une mer que l'on a de cesse d'épuiser. François Sarano.
D'abord, la mer a l'air insolide, mais il faudrait lui laisser des espaces de liberté. Lorsqu'on crée des réserves marines, rapidement, au bout d'une quinzaine d'années, on voit non seulement qu'à l'intérieur même de la réserve, les poissons sont revenus en nombre, ils sont revenus en diversité d'espèces, on y retrouve des grands prédateurs âgés. Lorsqu'il y a des grands prédateurs âgés, c'est un signe indiscutable du bon état de santé du lieu, de l'écosystème. Et ces réserves marines, lorsqu'elles sont suffisamment grandes, exportent à l'extérieur des frontières de cette réserve du poisson, exporte toutes sortes de micro-organismes, de mollusques, toute cette richesse. Par conséquent, si l'on souhaite avoir une mer riche, une mer en bonne santé, dont nous pouvons profiter, eh bien, il faut, je crois, vraiment créer des réserves marines. Et chaque pêcheur, moi j'ai des amis marins pêcheurs avec lesquels, d'ailleurs auxquels je dois beaucoup puisque j'ai fait mon doctorat avec eux, et je sais à quel point ce sont des gens qui connaissent la mer et des gens qui, s'ils en ont les moyens, pêcheront raisonnablement, pêchent raisonnablement. Il faut donc donner aux pêcheurs le mandat de gestion simultanément à la demande en poisson. Il faut leur dire, voilà, on va vous donner en gestion une zone de mer ou un quota, ça se définira. Et si vous le respectez, comme un bon gestionnaire, vous serez payé en tant que tel et le reste de ce que vous gagnerez sera ce que vous pêcherez. Et s'il y a un équilibre entre les deux, alors on tirera le meilleur de la mer. Il n'est pas question d'arrêter de pêcher du poisson, mais on n'ira pas au-delà de ce qui permet une régénération. Voilà. Et il y a quelques années, on a imaginé un concept qui était celui des unités de gestion et d'exploitation concertées qui s'appuyaient sur une concertation entre pêcheurs pour gérer la partie qui correspond à la zone exploitée et qui s'appuierait solidement sur des réserves marines. Un petit peu ce que feraient des prud'homies qu'on a en Méditerranée, mais qui s'adosseraient systématiquement sur des zones réellement mises en réserve stricte.
Qu'est-ce que vous faites de la haute mer et des seineurs ?
Alors, la haute mer et les seineurs. D'abord, la haute mer, il est nécessaire que, et je pense qu'on en parle aujourd'hui, qu'il y ait une nouvelle juridiction, que l'on puisse intervenir en haute mer. Il est nécessaire aussi que l'on imagine une réglementation internationale qui puisse régler ce problème de, c'est à tout le monde, donc c'est à personne, et qui fait qu'on a affaire à
un... C'est un peu trop pratique au bout du compte, ce vide juridique.
C'est même pas. Oui, c'est scandaleux, ce vide juridique. Comme on dit, toutes les zones communes sont des zones où chacun pense qu'il peut s'approprier ce qu'il y a. Alors, il y a un double problème avec les seineurs. D'abord, c'est la capacité même des bateaux, qui est trop importante, et le manque de réglementation. Mais à la base, c'est quand même la demande. C'est nous qui sommes à l'origine de cette demande. Il n'y a pas de problème de pêche, et on ne peut pas résoudre le problème de la pêche sans résoudre le problème de la consommation. Que le poisson soit ramené par un pêcheur ou 100 pêcheurs, si c'est la même quantité, si je demande 100 kg de poisson qui est un pêcheur ou 100 pêcheurs qui me l'amène, c'est toujours un prélèvement de 100 kg. Par conséquent, il n'y aura pas de solution sans que on définisse aussi du côté des consommateurs des règles nouvelles. On ne peut pas partager, comme on le partage aujourd'hui, les 85 millions de tonnes que la mer peut nous donner. Aujourd'hui, l'essentiel se va vers les pays riches, on en prive les pays pauvres. Et voilà, il y a 85 millions de tonnes chaque année, il n'y en aura jamais plus. C'est pas possible. Je ne parle pas de la catastrophe qui serait d'imaginer que l'aquaculture de poissons carnivores pourrait résoudre le problème, puisqu'elle consomme plus de protéines qu'elle n'en produit. Donc, on a 85 millions de tonnes, on est 7 milliards, demain on sera 9 milliards. Eh bien, il faut partager cette ressource différemment. Il faut la partager plus équitablement, que les gens qui ont vraiment besoin des protéines de la mer profite de ces protéines de la mer.
Oui, parce qu'il n'y a pas autre chose.
Mais évidemment, évidemment. Et que nous qui surconsommons les protéines, eh bien, nous en abandonnions une grande partie à ceux qui en ont besoin. Et quand nous mangeons du poisson, que nous nous rendions compte à quel point c'est de l'or, c'est un trésor, le poisson, c'est un trésor. Mais encore une fois, ça ne peut pas être fait sans s'adosser à des réserves strictes très très grandes si nous voulons encore consommer du poisson. Il y aura toujours du poisson, mais des poissons que nous consommons, ça, il est possible que rapidement nous n'en ayons plus. Hein, attention, des poissons, il y en aura, il y a des tas d'espèces. Mais
une dorade rose, ça peut disparaître ?
Voilà, ça peut disparaître. Je ne suis pas sûr que l'espèce elle-même disparaisse, mais elles deviendront si rares qu'il n'y en aura plus suffisamment et que la pêche s'effondrera et qu'il n'y en aura plus pour chacun d'entre nous. Hein, ne pas confondre la disparition d'une espèce, comme ça s'est passé pour le dauphin du Yangtze-Kiang. Hein, c'est un mammifère qui est devenu très rare dans les années 2000 et qui a disparu en 2007. Voilà. Ça peut disparaître complètement, ça ne reviendra jamais, c'est fini, c'est pour toujours. Maintenant, la morue a disparu, mais elle a disparu comme pêcherie. L'espèce morue continue à vivre. Hein, il ne faut pas confondre les deux. Donc, ceux qui souffrent les premiers, c'est les pêcheurs. Hein, et après, ça provoque des déséquilibres globaux dans l'ensemble de l'écosystème, parce que lorsqu'une espèce disparaît, lorsqu'une espèce s'amoindrit, eh bien, toutes les relations qu'elle a avec les autres espèces sont touchées. Par conséquent, c'est l'ensemble du tissu du vivant qui est touché, et nous sommes touchés avec elle.
Albert Falco, pour vous, qui est-ce ?
Oh bah c'est celui qui m'a appris la mer. Hein. Albert Falco, lorsque je suis monté pour la première fois sur la Calypso, il m'a un peu pris sous son aile. Et je croyais savoir plonger, il m'a appris à plonger. Je croyais connaître les poissons. Je sortais avec mon doctorat d'océanographie d'une thèse assez brillante. Et bah, il m'a appris la mer, il m'a appris les poissons, il m'a appris à regarder. Il m'a appris qu'il ne suffisait pas de disséquer les différents éléments pour comprendre le tout. Hein, et je crois qu'en tant que scientifique, on a l'habitude de disséquer un peu trop et d'oublier de regarder avec un peu de recul et avec le cœur.
François Sarano, fidèle à l'engagement d'Albert Falco, pionnier de la plongée sous-marine et défenseur infatigable des aires marines protégées. François Sarano est également le cofondateur de l'association Longitude 180 Nature avec Vincent Holl, dont l'objectif est la protection du milieu marin et le partage équitable de ses ressources en s'appuyant sur la charte internationale du plongeur responsable.
C'était une interview réalisée par Pascal Marcaggi.